Koh-Lanta, Jeux Olympiques sous les tropiques, c'était l'épisode 4 ce soir, et bienvenue à tous, c'est Damien. Donc aujourd'hui c'est Clémentine qui a été éliminée, mais ça on va pouvoir en parler. Avec nous aussi, une team que vous commencez quand même bien connaître déjà, puisqu'il y a Freeze de Topito. Salut Freeze.
Salut, c'est vraiment devenu mon nom de famille, quoi.
Bonjour. C'est une particule.
Voilà, je suis baron. Voilà, le baron Freeze de Topito.
Nadine de Rothschild et Freeze de Topito.
Donc lui, c'est pas les bonnes manières qu'il va nous apprendre.
Non, pas ce soir en tout cas.
Attends, j'oublie parce que... d'habitude, je le dis toujours en premier. Bon, je pense qu'il m'en voudra pas. Du moins, je l'espère. C'est Arnaud, alias SLZ. Salut Arnaud.
Eh ben non, je ne t'en veux pas. Place aux autres, hein, un petit peu quand même. Bonsoir Damien, bonsoir Freeze et bonsoir notre troisième intervenant dont je te laisse l'honneur de te présenter.
Le troisième intervenant, il était déjà apparu dès la saison 1 et il est aussi rageux que son homonyme féminin, c'est Jade. Salut Jade.
salut Damien. Alors écoute, un épisode assez riche en couleurs, notamment marqué par un événement assez spécial. On va revenir là-dessus par la suite, qui m'a fait très plaisir. Mais voilà, j'en dis pas plus.
Et à la fin de cet épisode, on va demander à Emma aussi de nous rejoindre pour parler d'une problématique assez particulière. Et bon, je pense vous en doutez, c'est que nous tous étant des hommes hétéro cisgenres, comme dirait un certain mec de Slate, je pense qu'on n'était pas forcément les mieux placés pour en parler. Donc elle interviendra avec nous à la fin. Bah, c'est Emma que vous connaissez qui est déjà intervenue avec nous. Alors cet épisode, il a commencé avec l'arrivée de Maxime sur l'île des Bannis, et le premier duel, qui était un duel un petit peu un petit peu les jeux de palais dans les multiplex cinéma, vous savez, où en gros tu dois prendre les palais, tu dois les empiler, tu dois en empiler 3, je crois. Et du coup moi je vais te laisser enchaîner avec ça, puisque c'est Karima qui sort. Alors écoute, le moment t'appartient, je te laisse.
Alors voilà, pour le coup, franchement, un début d'épisode royal, comme on apprécie. Déjà que l'épisode 1 nous avait régalé avec une sortie de Karima. Là, en plus, la production de TF1 nous donne le plaisir d'assister deux fois à l'élimination de Karima. Alors là, c'est un plaisir absolument incroyable, franchement. Surtout face à Hugo, que personne ne connaît. C'est-à-dire personne ne connaît Hugo. Même Maxime ne connaît pas Hugo, je pense. Et voilà, du coup, franchement, une défaite qui fait plaisir. On a Karima ensuite qui nous fait tout un discours sur comme quoi elle n'a pas le droit à l'échec. Et pourtant, à Koh-Lanta, c'est son troisième échec aujourd'hui. Même, je dirais même un quatrième échec, parce que prendre Carole en capitaine, pas fou. Mais voilà, pour le coup, franchement, un discours qui, pour ma part, m'a assez ému. Totalement d'accord avec Karima. Je pense que voilà, pas du tout en fait. Vraiment, j'étais très heureux devant ma télé. Et du coup, voilà, moi j'aimerais bien connaître l'avis de Freeze et de SLZ sur le sujet. Voilà.
Moi je suis pas aussi heureux que toi, ça s'entend, ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un intervenant qui est aussi content qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Moi je m'en fous un peu, honnêtement, de Karima. Je la déteste moins que toi, je pense. Je suis plutôt content qu'elle sorte sur cette saison-là, parce que clairement... Je pense qu'on a vite fait le tour. C'est sa morale, c'est son histoire me touche pas du tout. Le personnage me touche pas du tout non plus. Donc qu'elle dégage, c'est très bien. Et puis surtout, ça permet à Hugo de rester en jeu. Et ça, moi, je suis très content, comme vous le savez. Et puis Maxime, bon, c'est qu'une question de temps, je pense, avant qu'il sorte. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'était assez satisfaisant comme début. Ça, je dois bien l'admettre.
Moi, avant de parler de l'élimination de Karima, je voudrais avoir une pensée quand même pour Hugo, qui a dû se farder toute une journée, Maxime plus Karima. Et déjà, ça, c'est une épreuve en soi, je pense. Bien plus chiant que l'épreuve des paresseux. Donc, déjà, bravo Hugo. L'élimination de Karima, c'est pareil, quoi. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Voilà. Tout ce que je déteste, Madame Valeur, droit dans ses baskets, avec sa fierté qui en prend un coup, qu'elle a pas le droit à l'erreur, ta fierté, tu la prends et tu la ramènes à Paris, et au revoir et à jamais.
Mais puis surtout, c'est pour quelqu'un qui disait, même dans des avant cette saison-là, c'est quand on l'interrogeait et tout, elle disait que elle avait pour ambition d'être un peu un rôle modèle pour les femmes maghrébines. Et quand tu dis à quelqu'un, enfin, ça peut se comprendre. Quand tu dis non, j'ai pas le droit à l'erreur, c'est pas une bonne chose à transmettre, je pense, aux gens. Ils ont le droit de se planter, mais en même temps, je le comprends parce que c'est vrai que quand on n'est pas blanc, quand on n'est pas un mec et tout, bah du coup, c'est vrai qu'on souvent, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens qui le disent et qui connaissent le sujet parce qu'ils sont concernés, où ils disent qu'ils doivent bosser davantage. Donc, je peux comprendre qu'ils disent ça, même si je pense dans le fond que c'est pas forcément une bonne chose à transmettre.
Oui, et puis là, c'est un petit peu tout mélangé, c'est-à-dire que son histoire personnelle en dehors du jeu. Aussi compliqué qu'il ait pu être, c'est une chose, mais elle n'a rien à se prouver dans le jeu ou à prouver aux autres sur Koh-Lanta. Enfin, on lui demande pas d'être un rôle modèle, on lui demande d'être une candidate, ce qui est déjà pas mal, d'essayer de faire de son mieux, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, de gagner des épreuves, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, et d'essayer d'amener quelque chose. Donc je trouve ça un peu malsain de véhiculer, comme tu disais, ce truc de « il faut que je fasse mes preuves, j'ai pas le choix », etc. Parce que je trouve que c'est très contre-productif. C'est un jeu et le côté « on se met la pression » pour une telle pression sur ça, honnêtement, c'est j'aime pas du tout ce genre de discours.
Bah, et puis on le voit, les deux seules personnes qui sont à fond dans leurs valeurs, qui veulent se prouver des choses, etc., les deux sont sortis lors des deux premiers conseils, c'est Karima et Maxime. Donc,
Bah oui, ils se ressemblent beaucoup finalement. Hein,
voilà, ils se ressemblent beaucoup. Alors peut-être Maxime un peu moins, enfin, je sais pas, il est un petit peu moins brut de décoffrage, on va dire, mais voilà, enfin, faut pas oublier que ça reste un jeu, que il y a pas que le côté valeur, le côté je me prouve des choses à moi-même. Faut aussi montrer qu'on s'ouvre aux autres, qu'on a un capital de sympathie et qu'on puisse avancer avec les autres. Quoi.
Alors il y a Gino dans le chat qui nous fait encore une comparaison avec le catch.
Oh, mais même dans le chat, il est chiant. Hein.
Il nous dit, c'est marrant dans le catch quand il y a une nana qui se prétend rôle modèle, c'est le nom de code pour dire que c'est une grosse hypocrite. Je ouais, connais bah... pas le catch, donc je te fais confiance, Gino, mais c'est assez marrant, c'est vrai.
Par contre, Frisch, je te reprends, t'avais dit qu'elle avait pas réussi à gagner des épreuves, mais voilà, je suis obligé de rappeler qu'elle a réussi à gagner un duel contre Patrick, 85 ans, et contre Cindy, donc non, elle n'a pas non plus raté toute son aventure.
Voilà, c'est vrai, faut... quand c'est comme ça, c'est malgré l'échec, c'est vrai qu'il faut se rattraper aux petites choses, mais on peut comprendre sa déception, voilà, mais c'est vrai que c'est une candidate qui nous a montré, qui nous avait pas montré grand-chose, c'est-à-dire, donc voilà, donc je serais peut-être pas aussi, aussi enthousiaste que Jade, mais voilà, c'était une élimination qui était quand même assez attendue.
Je voulais juste, excuse-moi, juste parler un tout petit peu de Hugo, hein, ça va oui. Pour changer, juste pour dire que moi j'avais bien aimé non seulement sa victoire, mais aussi son discours face à Maxime. Je trouve très intéressant ce qui se passe sur l'île de l'exil, où ça parle presque plus ce strat que chez les garçons sur l'île, et j'aime beaucoup son positionnement, je trouve que c'est assez clair. Lui, on sait qu'il n'a pas forcément beaucoup d'alliés d'avant la saison, mais j'aime beaucoup son regard sur les gens qui arrivent au fur et à mesure. Et quoi qu'il se passe pour lui pour la suite, je trouve que c'est quelqu'un qui amène beaucoup de ce côté-là de l'île, et c'est franchement assez agréable parce qu'on n'est pas franchement gâté par ailleurs. Donc je trouve ça bien d'avoir cette vision-là, et voilà, ça me parle beaucoup. Donc je voulais juste relever ça.
Et qu'est-ce qu'il avait dit?
Moi, je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'il avait dit, Hugo, à Maxime? Je ne me rappelle plus.
Non, bah, en gros, il lui remontait un peu ses propres contradictions et le fait, bah, justement, il a parlé de ses valeurs, etc., en disant que les valeurs n'empêchaient pas de voter pour quelqu'un dans tous les cas, etc. Enfin, il l'a repris tout en gentillesse, comme il l'est vraiment foncièrement, je pense. Mais en tout cas, ça a été dit et je trouvais ça très intéressant de mettre un peu Maxime face à ses contradictions, parce que malgré tous les beaux discours, voilà, il a quand même dû voter pour quelqu'un, il faut quand même éliminer des gens, etc. Et voilà, il l'a un peu calmé alors que Maxime commençait à nouveau à faire du ouin-ouin, donc j'ai trouvé ça très appréciable.
Ouais, du coup, moi je disais que je trouvais limite Hugo plus intéressant dans cette configuration sur l'île de l'exil, en tant qu'un peu personne extérieure qui fait ses duels et qui voit petit à petit arriver quelqu'un, que sur l'île où pour le coup il était vraiment isolé en dehors de toute relation hors-jeu qui aurait pu être créée avant, et du coup il avait limite aucune chance. Du coup, bah, je trouve que justement ce twist lui va comme un gant, donc franchement je le trouve super intéressant dans cette configuration là.
Ouais, ça permet de se concentrer un peu plus sur lui quand on est sur l'île des bannis, Parce que c'est vrai qu'il avait tendance, même dans sa première saison, à être un petit peu effacé du reste du groupe et du casting. Bon, là, c'est différent parce que il a peut-être pas fait de pré-game avec d'autres candidats, donc il s'est de facto retrouvé isolé. Donc oui, c'est bien de le voir sous cet aspect-là. Ça nous permet aussi de le découvrir et d'apprécier le personnage.
Alors, on va passer ensuite, juste avant l'épreuve de confort, je suis pas sûr qu'il y ait eu des grosses discussions. Alors, on va passer à l'épreuve de confort où c'était l'épreuve des paresseux. Donc, une épreuve très connue et tout. Épreuve d'ailleurs qui est plus, je pense, qui doit être plus épique à faire qu'à assister. Parce que, honnêtement, on va le dire, en tant que spectateur, c'est pas l'épreuve la plus palpitante qu'on ait pu voir. Donc, chacun concourait par équipe. Et alors là, Denis nous a fait tout un truc parce que le record de 3h11 de 2012 a été battu. Même si Damien Mercereau a sorti un article pendant une pub où il dit, enfin, de Figaro Télémagazine qui disait que souvent Denis changeait un petit peu les règles en cours d'épreuve dans d'autres saisons ou alors il y avait les conditions météo n'étaient pas les mêmes et tout. Donc, c'est un record qui a à mettre un petit peu en perspective. Mais, on a vu 6 personnes qui ont battu ce record, dont Alexandra. Et il y avait Alexandra, il y avait Jade, il y avait Claude, il y avait Théora, il y avait Sam et quelqu'un dont je me rappelle pas. Et Jade, ouais, exact. Et du coup, à la fin, on voit une jambe. Enfin, c'était enlever une jambe, puis enlever un bras. Et c'est Claude qui gagne face à Sam, hein, 3h46 ou 47 minutes. Donc voilà, c'est vrai que ça a été « Ah, le record est battu, c'est exceptionnel !» Mais en fait, j'avais l'impression qu'ils essayaient de faire un truc un peu ronflant autour de ça, ce qui est une vraie performance, on est d'accord, mais que c'était plus un record pour la forme, quoi. Cette épreuve, ce record, pareil, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que, au contraire, ça vous a beaucoup impressionné ?
Oui, alors impressionnant, ça l'est forcément. Après, effectivement, le côté record historique, on peut mettre un bémol parce qu'il y a quand même à chaque fois des changements de règles qui n'interviennent jamais au même moment selon les saisons. On ne sait pas à quel moment. Une fois, c'est au bout d'une heure, vous enlevez un bras. La saison d'après, c'est au bout de 3 heures, vous enlevez une jambe. Enfin bon, ça n'a aucun sens, mais bon, passons. Après, sur l'épreuve en elle-même, ce que je déplore un petit peu, c'est. Un débat qu'on avait déjà eu sur un épisode précédent, mais c'est que les épreuves d'endurance finissent par devenir juste des épreuves d'équilibre au final, et qu'on perd le côté tension sur la durée, qui est quand même normalement le but de l'épreuve. Alors je comprends que ça sera peut-être un peu compliqué d'éterniser pendant des plombes pour la production, pour même Denis, qui doit quand même copieusement se faire chier. Mais je trouve qu'au final, les épreuves de ce type-là perdent un peu de leur sel. Donc ça reste très impressionnant, hein, clairement. Mais moi, c'est moins ce que j'aime. Je trouve que tout a tendance un peu à s'uniformiser sous cet axe-là. Et du coup, je m'y retrouve pas forcément. Je trouve que la première partie de l'épreuve, par exemple, est complètement inintéressante, alors que le twist de cette épreuve de paresseux en équipe aurait pu être intéressant, avec le cumul de riz en plus, qui est quelque chose de nouveau, je crois. Ça, c'était pas mal, mais je trouve que ça n'a pas été poussé au maximum, et du coup, ça, le soufflet est un peu retombé rapidement, malgré la performance dont on ne se rend pas forcément compte, qui est pour le coup vraiment exceptionnelle.
Ouais. Je te rejoins un petit peu et pour moi c'est un petit peu l'école des fans parce que voilà entre Candice, Sam, etc. qui affrontaient leurs idoles, l'histoire du riz au début c'était peut-être une bonne idée mais après bon vu que ils sont 6 à avoir battu le record finalement on donne du riz à tout le monde voilà donc c'est vraiment esprit école des fans. C'est voilà à la limite s'ils avaient voulu pousser le truc vraiment par équipe ils auraient peut-être pu faire au cumul du temps enfin l'équipe qui est restée le plus longtemps au cumulé de tous les aventuriers ça aurait peut-être pu être un petit peu plus intéressant enfin après voilà c'est une épreuve qui est pas forcément télégénique aussi parce que bon voilà, regardez des gens qui se pendent pendant 3 heures.
Attention quand même à la formulation.
Voilà, qui font le paresseux pendant 3 heures. Mais bon, ça a permis à Denis de se pougner un petit peu sur les performances de chacun. Et voilà, on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse en sorte que le record soit battu. Et donc, ils sont contents, tout le monde est content, tout le monde repart avec du riz, et merci tout le monde.
Alors moi, perso, je n'ai pas du tout aimé l'épreuve, genre dans sa totalité. Déjà, on commence, c'est-à-dire que pour une épreuve où le meilleur tient 3 heures, 4 heures, la récompense est 1 kg de riz pour une équipe de 7 à 8 personnes, quoi. On s'en rend pas compte, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Genre, vraiment, c'est ridicule comme récompense, de 1. De 2, je trouve vraiment que récemment, dans Koh-Lanta, il y a une manie dans les épreuves collectives à vraiment... j'ai envie de dire, valoriser la performance individuelle au-delà de, je sais pas, se creuser les méninges pour trouver des épreuves collectives intéressantes, qui demandent coordination, esprit d'équipe, entente, stratégie, etc. On est vraiment sur un côté champion. Oh, Claude est trop fort, il a fait gagner l'épreuve. C'est-à-dire que Claude, il aurait pu être dans l'équipe la plus naze possible, genre avec les 7 personnes qui sont tombées au début. Mais comme Claude est trop fort, bah, il aurait fait gagner l'épreuve à son équipe. Et moi, je trouve ça tellement ridicule. C'est-à-dire qu'on s'en fiche que Kumba tombe au bout de 6 minutes parce qu'elle pénalise personne. Alors que, par exemple, justement, il y a l'épreuve dans les armes secrètes. Encore là, ça allait. Parce que quand quelqu'un tombe, t'as la corde qui devient moins stable. Et donc, du coup, bah, forcément, sur la fin, ça devient très compliqué s'il n'y a plus que 2 personnes. Alors que là, bah, on s'en fiche, quoi. Franchement, je trouve ça ridicule. Puis sur la fin, oh, trop fort, il y a 6 personnes qui ont battu le record, donc on donne 100 grammes de riz supplémentaires par personne. Donc, voilà, les rouges, vous n'avez pas totalement perdu l'épreuve parce que vous repartez avec 600 grammes de riz. Oh, c'est trop bien, franchement, vous êtes trop fort, c'est Koh-Lanta la légende. Oh là là, franchement, je suis trop fier des candidats, ils font honneur à la saison. Mais oh là là, franchement, ça devient relou. Alors que voilà, on a passé 30 minutes devant notre télé à voir des gens immobiles sur un bout de bois, quoi. Franchement, fou, oh là là, je trouve ça tellement inutile.
Le comble, c'est un truc que je viens de lire dans le chat, mais je l'ai lu tout à l'heure, donc si le chat le dit, j'imagine que c'est vrai, c'est que cette victoire, a priori, va compter comme une victoire individuelle pour Claude.
Oui.
Voilà. je vais m'arrêter là.
À partir du moment où tu individualises la performance, tu es entre guillemets obligé de la compter comme une victoire individuelle et voilà, ça permet un petit peu de faire gonfler les stats de Claudius. Mais bon, non, mais je suis d'accord avec Jade qui nous a sorti une masterclass là. C'est vrai que c'était une épreuve individuelle et ça permettait de mettre en exergue les performances individuelles. Il y a aucun voilà. La différence, par exemple, avec un Koh-Lanta des quatre terres où une Alexandra se révélait sur les épreuves parce qu'il y avait de la réflexion, etc. Bon, même si là, ce soir, elle a plutôt bien géré son épreuve. Il y avait toujours une part de force, une partie de l'épreuve qui était basée sur la force, une partie sur la réflexion. Alors que là, voilà, c'est comme l'a dit Damien en préambule de l'épisode, c'est Koh-Lanta les Jeux Olympiques, donc du coup, bah, c'est les plus forts qui se mettent en œuvre, et au final, bah, on voit tout le temps les mêmes, Claude, Théoura, Sam, après voilà, ça fait plaisir au FC Twitter, comme on aime l'appeler, mais bon, c'est nous, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il peut y avoir une lassitude.
Après, si vous voulez individualiser autant l'épreuve, autant donner une poire au choco à Claude comme il a gagné, quoi. À un moment donné, il faut arrêter.
Ouais, c'est ça qui a fait, c'est vraiment cette saison qui a été faite pour cette alliance voilà masculine, cette alliance pré-game qui pour l'instant roule un petit peu sur tout le monde. Et du coup, est-ce que entre les deux épreuves, il y a eu quelque chose qui a attiré votre attention? Parce que moi, je me rappelle pas beaucoup. C'est vrai que hors épreuve, ça a pas été un épisode extraordinaire de ce point de vue. Il y a eu des discussions, des trucs un peu marrants, je sais pas.
Non, du tout. J'ai aucun souvenir parce que à 22h20, t'étais déjà à l'épreuve d'immunité. Donc, sachant que ça fait une heure que l'épisode avait commencé, entrecoupé d'une ou deux pubs. Donc, t'avais pas vu grand chose de l'épisode. Donc, j'ai aucun souvenir des inter-épreuves.
Moi, j'ai le souvenir de Christelle qui dit. Oh là là, mais franchement, le discours de Sam, oh là là, mais franchement, ça m'a fait réfléchir. Hein. Il a parlé de Koh-Lanta mixte, et moi, même si je suis pour le girl power, mais franchement, voilà quoi, franchement, moi, ça m'a fait réfléchir. Il m'a touché, Sam. Hein. Donc, moi, je vais parler à Candice, elle est d'accord avec moi. Donc, moi, franchement, Clémence, elle m'a un peu saoulé en votant contre Phil. Non, je crois que ça, c'est Kumba. Mais voilà. Donc. Pour le coup, là, on a aussi un début de fin d'alliance féminine du côté des c'est l'équipe jaune, ça. Voilà, donc de tous les côtés, on a l'alliance féminine qui part en éclat parce que voilà, les hommes ont la réflexion comme quoi c'est dommage de jouer sans les hommes, il faut des hommes comme des femmes, mais on sait très bien que les hommes, à la fin, ils vont voter entre hommes.
Ouais. Non, mais c'est... Voilà. On en parlera, ça, en fin d'épisode, justement, sur les stratégies avant élimination. Mais ouais, c'est qu'il y a quelque chose de ça, justement. Enfin, on en reparlera après. Ok, voilà. Je sais pas ce que je peux dire pour l'instant d'intelligent sans entamer ce qu'on va dire après. Donc.
Ouais.
Ah oui, tiens, non, j'ai oublié un truc. Il y a eu tout un truc sur le camp rouge où, en gros, Loïc refuse de manger.
Ah oui, c'était passionnant, ça. Mmh. C'est bien d'en parler.
Voilà. Vous allez comprendre pourquoi, je voulais poser une question à Arnaud,
SSZ,
qui est père de famille. Voilà. Comment on fait pour faire manger un enfant récalcitrant?
Je voudrais pas avoir les services sociaux au cul, donc je vais pas pouvoir répondre à cette question. Non, je plaisante. Non. Moi, j'ai pas d'enfant de 19 ans. Hein. La mienne a fêté ses 3 ans aujourd'hui. Donc, c'est du chantage au jeu.
Donc, voilà. Alors que Jade devrait faire du chantage au jeu à Loïc.
Voilà, c'est ça. si tu manges pas ton poulpe, tu ne feras pas l'épreuve des paresseux.
Ah, ben voilà, écoute, si nous écoute. Ça peut être un bon truc. C'est pour ça que je voulais te demander, j'ai pensé pendant l'épisode, je voulais te demander ton expertise de père de famille.
D'ailleurs, Loïc.
Ah bah oui.
Loïc ne l'a pas fait au final.
Pose-moi la question.
Oui, c'est vrai. En plus, il ne l'a pas fait puisqu'il a tiré la boule.
C'est vrai.
Donc, cette épreuve, enfin, pour.
N'empêche, elles sont très passionnantes, hein, les scènes de Loïc.
C'est vrai. Tout Loïc est passionnant, Jeanne. Enfin.
Mais bien sûr, le meilleur candidat de l'histoire de cette émission. Hein. Toutes ces scènes sont d'un intérêt absolument incroyable.
Mais il est gentil. Laissez-le.
Il ne manquerait plus qu'il morde.
Voilà. Donc, pour l'épreuve d'immunité, c'est les jaunes qui la remportent, avec forcément un dernier tour, avec ces Claude et je ne sais plus qui portent celle de 120 kilos. Donc, et Kumba, Claude et Kumba, ouais. Donc... voilà, prosternons-nous et embrassons les pieds de Dieu Claude. Bon, enfin, moi je dis ça, enfin, c'est un petit sarcasme, mais c'est très impressionnant encore. C'est voilà, c'est y a rien à dire là-dessus. C'est juste voilà le traitement où qu'on place Claude un petit peu sur un piédestal, c'est ça qui est un petit peu casse-pied. Et du coup, enfin, alors vous pareil, cette épreuve, est-ce que vous avez quelque chose à en dire?
Moi j'ai beaucoup aimé la dernière partie uniquement. Je trouve que ça aurait été très intéressant de ne faire quasiment que ça, c'est-à-dire une pierre en binôme. Parce que je trouve que déjà ça a changé un petit peu des pierres individuelles, encore une fois, hein, on y revient, et que ça a amené quelque chose qu'on n'avait pas vu sur la première, c'est-à-dire de la cohésion, de l'entente, de l'organisation. Donc c'est dommage qu'au final ça n'ait pas été en binôme que ça. Après, bon, c'est classique, il n'y a rien de passionnant. Mais on peut juste reparler vite fait de Teruwa qui... c'est compliqué d'en parler, mais je trouve qu'il détruit tout ce qui touche. Là, il a essayé une organisation, ça a foiré. Il essaye de motiver les troupes, personne n'y croit. Ça me fait presque de la peine à ce stade, honnêtement, de voir... l'échec total de tout ce qu'il essaye d'entreprendre parce que là ils avaient pour le coup largement la main sur l'épreuve et encore une fois ça s'est complètement délité, même si en face ils ont été très bons, notamment Claude et Kumba, mais bon c'est, voilà, thé qui fait du thé, on va dire.
Après oui, c'est vrai que ça, si ça avait été une épreuve uniquement avec la pierre sous l'eau en binôme, c'était pas mal parce qu'on a vu qu'il fallait quand même de la coordination. Parce que il a un peu choqué, c'est-à-dire il s'est complètement raté. Bon, après il y a eu Clémentine qui était en binôme avec lui à ce moment-là qui s'est raté également. Et du coup, c'est ce qui a un petit peu fait perdre les rouges. Donc ça aurait été plus intéressant que de voir les pierres sous l'eau. Surtout que bon, la semaine dernière, on a eu un petit peu l'épreuve similaire où il fallait aller chercher les raies et il fallait être bon en apnée. Voilà. Là, ça apportait une dynamique supplémentaire, cette coordination. Et ça faisait plus travail d'équipe que la première phase de l'épreuve.
Après, ça reste dans la logique de la saison. On est vraiment dans le fan service. C'est-à-dire que voilà, on voit les légendes qui font les allers-retours. Sans remonter, qui font tout le tour d'un coup Et voilà, les gens sont trop forts. Donc, c'est dans la logique de la saison, mais je suis d'accord, ça aurait été plus intéressant de faire les pierres en binôme. Après, il faut quand même souligner que Claude est très fort sur cette saison. Il est limite au-dessus.
Mais il a futé. Hein.
Il est très, très fort. Genre, que ce soit en apnée ou en paresseux ou même sur le camp, il a tout le monde autour de son index. Voilà, il est très, très fort. Il faut quand même le remarquer, même si voilà, pour l'aspect stratégique, c'est surtout lié à ses connexions hors du jeu. Mais pour l'instant, il fait le job et c'est plutôt pas mal. Faut souligner aussi ce qui se fait de bien. Donc voilà.
Je suis d'accord avec toi. Alors je sais que beaucoup dans notre communauté n'aiment pas trop Claude et n'aiment pas surtout sa fanbase. Je fais partie de ceux qui l'apprécient beaucoup et on regarde aussi Koh-Lanta pour les épreuves. C'est une partie intégrante. Hein. C'est un des S des fameux 4S qu'on a tendance à mettre en exergue. Et on peut pas dire, là, pour le coup, contrairement à l'île des héros, où c'est une saison qui est faite uniquement pour lui, parce qu'il a quand même des adversaires à sa taille et il surnage un petit peu. Donc, il a affûté le garçon et. Moi, perso, ça me déplaît pas de le voir comme ça. Après, bon, comme tu dis, niveau stratégie, de toute façon, j'ai l'impression que toute cette saison sur la stratégie, mais on y reviendra plus tard, je pense, ça va être un peu biaisé par rapport au pré-game.
Bah oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Claude, effectivement, concrètement, on peut rien dire de négatif sur lui sur cette saison. Sportivement, il est très, très impressionnant. Je pense que même de mémoire, j'ai rarement vu un candidat aussi affûté et fort dans à peu près tous les compartiments du jeu en termes d'épreuves physiques. Donc là-dessus, rien à dire si ce n'est respect. Le problème, et c'est un peu ce qu'on craignait avant même que le début de saison ne commence, c'est la glorification, on y revient, autour de Claude et de son statut sur Koh-Lanta, des valorisations sportives, etc., qui, moi, personnellement, même si j'aime beaucoup le joueur, commence déjà, là, on est au quoi, quatrième épisode, commence déjà à me le rendre très agaçant. C'est pas de son fait, lui n'y est pour rien, il fait son jeu, il y joue, il est très bon, et même stratégiquement, il est discret, il fait pas d'erreur, etc. Mais j'en peux déjà plus de Claude. Et c'est l'erreur, encore une fois, de Koh-Lanta, qui ne sait pas traiter ses héros, et qui finit par en faire par tirer tellement, tellement, tellement sur la corde. Moi, ça me fait déjà chier. Alors que Claude est un super joueur, qui mériterait presque de gagner, etc. Mais là, tout tourne autour de lui, tout est pour le valoriser, tout le temps, partout, donc quelles que soient les conditions, les propos, même des joueurs en interne qui sont complètement lobotomisés, sûrement à cause de la prod, mais enfin, même, c'est fatigant. Et alors, on parle même pas des stratégies, parce que pour l'instant, il est un peu à l'écart, d'une façon ou d'une autre, même s'il est quand même impliqué, mais quand on va arriver au moment où c'est lui qui va tirer les ficelles, avec ce qui se passe déjà en ce moment dans les stratégies d'équipe, honnêtement, je crains vraiment le pire. Mais bon, comme dirait un grand philosophe, à voir.
Alors du coup, on va passer ensuite aux discussions stratégiques dans l'équipe rouge. Et là, donc, on se rend compte que l'alliance féminine est en train de se déliter. Donc, on a 4 hommes, on a Laurent, Namadia, Théoura et qui c'est qui le quatrième?
Laurent.
Oui, j'ai dit Laurent.
Loïc.
Ah, et Loïc, pardon. Ah oui, bah, comme quoi on l'oublie.
Comment on peut oublier Loïc?
Oh, il est gentil.
Il est petit, là, il est gentil, il a bouffé Léo Messi. Ne réagissez pas, enchaîne.
Non, t'inquiète.
et du coup, de leur côté, bah, c'est-à-dire qu'il y a Alexandra, Alix, Clémentine et Jade qui essaient de se mettre d'accord pour essayer de sortir un nom. Sauf que Alexandra veut pas qu'on vote contre Loïc ni contre Laurent. Je crois que c'est Clémentine qui veut voter Laurent, mais qui veut pas qu'on vote contre je sais plus qui.
Je l'ai noté, si tu veux.
Non, justement, elle veut pas trop voter Laurent au début. Parce qu'il est gentil. Oui.
Parce qu'il est gentil. Alexandra veut pas voter Loïc, Clémentine veut pas voter Laurent, et Jade veut pas voter Namadia.
Ah ouais, putain.
Oui, voilà, c'est le mot.
Et du coup, ça commence à se déliter. Et Alexandra, qui était venue dans l'Alliance des Femmes parce qu'elle s'était pris un gros coup de pression de la part de Kumba.
Juste parce que c'était une femme.
Oui, voilà. Et bah du coup, elle dit « Oui, moi, j'aime pas quand on fait ça, je suis indépendante. » Et pour quoi faire? Pour retourner se mettre sous la protection des hommes. Et c'est, oui, voilà. C'est et du coup donc Alix la rejoint et puis Alix commence à baver un petit peu tout le plan. Et du coup bah je vais demander à Emma de nous rejoindre si elle est dispo, si elle veut bien.
Bonsoir.
Bonsoir Emma.
Salut.
Bonsoir Emma, installe-toi.
Alors du coup, j'ai une discussion tout à l'heure sur le chat, ok, tu étais d'accord, c'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir. C'est que à chaque fois, quand il y a une alliance féminine, au départ, ça tient, on se dit ouais, on est les femmes et tout, on va tenir jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, dès qu'il y a des dissensions, ça commence toujours un petit peu à se déliter. Et comme Alexandra, c'était, on comprend pas pourquoi c'est quelqu'un qui se dit indépendant va tout de suite se mettre sous la protection des candidats masculins.
Bah en fait du coup ce qui a été hyper visible dans cet épisode et quand on voit direct dans les stratégies post-immunité chez les rouges en fait, dès qu'on oppose les hommes et les femmes il y a forcément des dynamiques hyper différentes qui se mettent en place et là on voit bien que les mecs ils vont chercher les meufs littéralement et pour le coup dans l'état des choses c'est bien joué entre guillemets de la part de Namadia, de la part de Laurent parce qu'ils repèrent les failles, ils vont les chercher et ils les prennent sous leur protection entre guillemets et à leur avantage et c'est tout bénef pour eux. Ils font sauter l'alliance féminine en 2 secondes et en fait je pense que tout cet épisode peut se résumer dans le moment où Alexandra pousse un espèce de soupir de soulagement quand elle se sent valorisée et comprise par Laurent quand ils discutent. Parce qu'en fait, on apprend aux femmes toute leur vie à valoriser l'approbation d'un homme et à placer ça comme quelque chose de la chose la plus importante. Et donc, toute alliance féminine, tout girl power qui soit, quand on n'a pas un minimum conscience des dynamiques qui se jouent à chaque fois qu'on oppose les hommes et les femmes, quand on est une femme, c'est tout de suite hyper tentant de se laisser aller dans cette approbation-là. Et en fait, on voit les yeux d'Alex qui brillent à ce moment-là. Et voilà, enfin, à aucun moment, même si c'est pas un bon move stratégique peut-être de sa part, à aucun moment, personnellement, je lui en veux parce que c'est quelque chose d'hyper compliqué, surtout psychologiquement, quand ça fait une dizaine de jours qu'on est sur une île, qu'on mange pas, etc. Et du coup, ouais, elle se laisse prendre à ce truc-là parce que pour elle, c'est hyper important. Et comme tu dis, elle dit « je suis une femme forte » et en fait, elle va juste se mettre sous la protection d'un mec. Mais parce que cette approbation-là est quand même hyper, hyper forte et que les mecs arrivent hyper bien à en jouer, consciemment ou non. Mais en fait, à partir du moment où on oppose les hommes et les femmes, il y a cette dynamique-là qui va se créer, quoi. Et puis en plus on a un montage qui arrange pas les choses parce que ça fait 1 ou 2 épisodes qu'on nous montre les mecs comme des personnalités hyper constantes, qui rigolent, qui sont cool, qui sont détentes, alors que les femmes sont tout le contraire, c'est-à-dire qu'elles savent jamais ce qu'elles veulent, elles sont jamais d'accord, elles aiment pas les hommes parce qu'elles se sont alliées entre elles, etc. Et alors qu'en fait bah, déjà il y a énormément de pré-game et qu'il y a des dynamiques qui sont complètement différentes et du coup ça crée cette situation assez frustrante et qui fait qu'on va toujours remettre en cause la crédibilité d'une alliance féminine parce que les femmes elles vont discuter, parce qu'elles vont prendre en compte tous les sentiments de chacun, elles vont prendre en compte ah mais alors les hommes en fait là Sam il a dit qu'il voulait un Koh-Lanta mixte alors là je me sens trop mal de faire une alliance que féminine etc. alors que les mecs au final ils vont voter entre eux et ça va faire chier personne et ça va choquer personne. Donc voilà c'est ce que j'avais à dire sur ce moment-là. On peut carrément discuter. Hein. C'est aussi hyper intéressant d'en parler, hyper intéressant de débattre là-dessus. Mais je trouve ça quand même. J'ai vraiment l'impression de regarder une édition de 2005 là, à certains moments. Donc, bon.
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est terrible pour l'émission, je trouve. Même franchement, cette espèce de logorée, c'est un peu fatigant. Et ce retour en arrière, comme tu disais. Le pire, c'est que ça gâche même des décisions stratégiques qui sont bonnes. De mon point de vue, la décision d'Alexandra est la bonne. Je trouve qu'elle a raison de changer de camp, entre guillemets. Le problème, c'est que cet acte-là, il est, comme tu disais, complètement... rabaissée entre guillemets parce que c'est pas elle qui décide de faire ce mouvement là, c'est juste les garçons qui la sauvent et tout le problème est là. alors que son idée de base de sortir Clémentine, et je pense le bon, voilà, le coup de pression de Kumba au début, c'est légitime qu'elle pense ça maintenant et qu'elle l'ait mal vécu. Donc en soi, elle a toutes les raisons de retourner sa veste, entre guillemets, dans le bon sens du terme, mais effectivement, via le montage, via le discours des hommes, via le côté guerre des sexes qu'on veut nous vendre depuis 4 épisodes, ça rend le tout d'une lourdeur que j'ai rarement connue dans une saison de Koh-Lanta.
Et puis je pense que si de base les équipes avaient été mixtes, on aurait eu les jaunes, les rouges mixtes, on aurait eu exactement la même dynamique qu'en cas de remaniement des équipes au bout de quelques épisodes. On aurait eu les anciens rouges, les anciens jaunes, est-ce qu'on reste de cette couleur, est-ce qu'on change de couleur, etc. Sauf que là, d'introduire juste cette notion par rapport au genre, ça biaise tout et ça, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les réflexions débiles sur les oppositions hommes-femmes et des moves stratégiques qui peuvent être intéressants, ouais, sans voir complètement... bafoué, quoi. Même le move de Namadia et de Laurent d'aller chercher les oppositions dans le camp d'en face et les faiblesses du camp d'en face, en soi, c'est un bon move, quoi. Mais c'est juste que dans la dynamique là, il y a quelque chose de vraiment gênant et de vraiment rétrograde, je trouvais.
Et d'ailleurs, en fait, la seule qui s'est un petit peu opposée à ça, parce qu'elle a peut-être un peu plus de caractère, ou je dirais, ou d'égo de confiance en elle, tout simplement, c'est Clémentine. Mmh. C'est Clémentine qui voulait. Qui s'en foutait, qui voulait rester comme ça et qui voulait pas céder forcément à ces sirènes-là. Et c'est même Jade qui fait des réflexions stratégiques à Alexandra. Et alors ça, quand on se rappelle de Jade, c'était assez extraordinaire de voir ça. C'est celle qui a eu les réflexions stratégiques les plus sensées de l'épisode même.
Ouais, elle était hyper intéressante sur cet épisode. Et c'est vrai que par rapport à Clémentine, moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle disait à la fin. Au conseil de dire qu'elle, entre femmes, elle se sentait à l'aise et elle sentait qu'on pouvait parler, etc. Enfin, il y avait vraiment cette réflexion-là, mais parce que je pense que Clémentine, c'est quelqu'un qui a déjà peut-être fait un travail un peu de déconstruction et tout sur toutes ces oppositions hommes-femmes, etc. Et du coup, qui a la capacité de voir en fait que les dynamiques qui se jouent et un peu les sirènes de la protection masculine, entre guillemets, auxquelles Alexandra et aussi Alix vont un peu céder, malheureusement, ça a causé sa perte. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'était quand même assez intéressant d'avoir un personnage avec un discours tel que celui de Clémentine dans le jeu. Donc voilà, assez dommage sur cette fin d'épisode et beaucoup de choses à dire sur cette opposition-là, mais vraiment un peu saoulé, quoi.
Oh, je comprends. Non, mais c'est vrai que ça commence à dire casse-couille et, comme vous l'avez dit, assez rétrograde. Du coup, ce qu'on n'a pas entendu, que ce Arnaud comme Jade, donc Jade JAD, hein, c'est notre Jade à nous, vous, pareil, c'est-à-dire les tentatives strat de Jade, les réactions de Clémentine, comment vous avez vécu ça? Commence par Jade, parce que toi, stratégiquement, tu as de la finesse.
Tout d'abord, je voulais revenir un peu sur ce qui s'était dit par rapport justement à cette division homme-femme. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est passé par la tête de la production quand ils se sont dit « Ah, ça serait sympa de diviser les hommes d'un côté et les femmes de l'autre ». Quand tu fais un casting qui, de base, j'ai envie de dire, est assez pré-game, c'est-à-dire que limite tous les candidats se connaissent, quel est ton intérêt à faire un camp 100% homme où déjà, tu as 2-3 candidats qui sont sur le côté et qui, pour le coup, vont se faire éliminer lors des deux premiers conseils pour sûr. Quel est ton intérêt à faire une division du genre qui va 100% inciter les gens à justement faire une alliance entre eux? Parce que moi, cette alliance entre femmes et cette alliance entre hommes, en quelque sorte, mais niveau homme, c'est différent parce que pour moi, c'est pré-game. Mais cette alliance entre femmes, pour moi, c'est exactement la même chose qu'une alliance rouge ou une alliance jaune. C'est-à-dire, c'est une alliance de personnes qui ont passé une semaine ensemble sur une île, qui se connaissent peut-être mieux que des gens qui ont été sur un autre camp. Donc, pour moi, le fait justement de diaboliser, oh, c'est que des femmes. Non, c'est la production qui a voulu ça. Donc, moi, j'en veux aucunement à une femme qui fait une alliance du genre, parce que c'est naturel dans le cadre du jeu qui leur a été imposé de se dire « Bon, on a été sur le même camp pendant 7 jours, on va rester ensemble. » C'est normal. Maintenant, concernant Jade, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle a très bien repéré justement qui était dangereux et qui n'était pas du côté des hommes. La logique veut faire sortir Laurent parce qu'il est connecté non seulement à Namadia et à Thé de ce côté-là, mais aussi à Sam, à Claude de l'autre côté. C'est quelqu'un de très charismatique et on le voit justement là, il a Alix et Clémentine qui sont prêtes à jeter leur jeu pour sauver Laurent. justement, elle analyse très bien les choses. Maintenant, elle a un côté jeu assez cru, agressif, qui fait que certaines personnes peuvent critiquer, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié Jade avec un E sur cet épisode, parce que justement, elle a eu ce côté. Elle a eu ce côté très très cru, très agressif, qui perso j'adhère. Et concernant Alexandra, bon, déjà elle bloque deux noms, donc on peut pas voter contre Namadia parce que Namadia il est gentil, Namadia il est gentil avec moi. Et ensuite on peut pas voter Loïc parce que Loïc c'est mon ami, c'est le sang de la veine, c'est mon coéquipier de l'équipe verte des Quatre Terres. Hein. On peut pas voter contre Loïc non plus. En plus il m'a sauvé lors du dernier conseil. Oh là là. Et ensuite t'as Alix qui bloque sur Laurent parce que Laurent c'est le smile, c'est la force et Clémentine qui refuse d'éliminer Laurent alors que justement elle est en danger. Niveau stratégie, c'était vraiment une catastrophe cet épisode côté femme. Les hommes, ils ont bien joué pour le coup parce que voilà, c'était ce qu'il fallait faire, rester ensemble, appuyer là où ça faisait mal. Parce que quand on regarde deux saisons d'Alexandra, on comprend très bien comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se sentir écoutée. On l'a vu sur les Quatre Terres quand Adja l'a critiqué ou quand c'était Laurent des Quatre Terres. Et là, pour le coup, bah, c'est exactement pareil avec Clémentine et Kumba dans le rôle de Adja et Laurent. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est très mal joué de la part de ces candidates-là de ne pas avoir mieux analysé Alexandra et son côté émotionnel, parce que justement, ça peut coûter l'aventure à Kumba et ça a coûté l'aventure de Clémentine. Donc voilà.
Je rejoins ce qui a été dit sur Jade. Elle a été clairvoyante parce que elle s'est doutée aussi de l'alliance donc de Laurent avec, comme ça a été dit, avec Claude, Sam, Théora, mais aussi avec Kumba, qui est un petit peu l'instigatrice de tout ça, mine de rien. Et ça a été, voilà, Namadia l'a bien fait remarquer à tout le monde que c'est Kumba qui est à l'origine de ça et que c'est, voilà, c'est une hérésie totale parce que Kumba ne votera jamais contre Claude, par exemple, par rapport à l'alliance pré-game. Et justement, Jade a cette clairvoyance de l'alliance pré-game et veut casser ce groupe-là en éjectant Laurent. Donc, c'était une très bonne idée. Malheureusement, voilà, c'est mal connaître Alexandra et son affect. Qu'Alexandra veuille protéger Loïc, que ce soit un binôme qui ait du pré-game entre les deux, c'est totalement compréhensible. Pourquoi il n'y en aurait pas entre Alexandra et Loïc, alors qu'il y en a entre Claude et un quart du reste du casting, parce qu'ils se connaissent tous depuis 10 ans. Ce que je comprends moins, voilà, c'est pourquoi Alix veut protéger Laurent, quel intérêt elle a de protéger Laurent. Voilà, c'est un truc qu'on comprend pas trop, mais voilà, c'est pas étonnant non plus. Depuis le début de la saison, il y a des affinités qui se font qu'on comprend pas trop. Il y a des zones d'ombre. C'est des fois c'est un peu incompréhensible. Et Clémentine, pareil, elle aurait pu se sauver en suivant le coup de Jade, mais voilà, elle s'est brûlée les ailes. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Ça aurait évité aux garçons de ramasser les miettes parce que là, ils n'ont rien eu à faire. Ils ont juste eu à attendre que ça trouve une solution côté fille et il n'y a plus de solution côté fille. Donc, ils sont allés vers Alexandra et Alix et ils n'ont plus qu'à ramasser les morceaux et à les prendre de leur côté pour s'en sortir. Donc bravo les garçons et dommage pour la stratégie des filles.
Alors du coup, je crois pour les votes, donc il y a 4 votes contre Clémentine, il y a 2 votes contre Jade et 2 votes contre Laurent, si j'ai bien compris.
Donc moi, c'est juste pour revenir sur la position assez extrême dans laquelle s'est retrouvée Jade. Parce que d'un côté, tu es dans une alliance féminine de 4 qui ne peut pas se mettre d'accord. Pour moi, elle fait une très bonne chose, c'est-à-dire elle se met du côté d'Alexandra, même si c'est aussi dans son intérêt d'éliminer Laurent. Mais tu te mets du côté d'Alexandra, je pense que rien que là-dessus, c'est beaucoup plus simple de convaincre Clémentine et Alix de suivre un vote que de convaincre Alexandra qui, elle, justement, elle peut se retourner parce qu'elle ne se sent pas écoutée. Ensuite, du coup, bah, c'est compliqué parce que les filles ne se mettent pas d'accord. On peut se demander, oui, mais pourquoi personne ne pense à casser le binôme Loïc-Alexandra? Bah, c'est très simple, parce que Alexandra ne votera pas Loïc. Donc, Jade ne peut pas convaincre Alix et Clémentine de voter Loïc parce que ça fait une minorité et les mecs ont aucun intérêt à éliminer Loïc ou Alexandra parce qu'ils savent que Loïc est avec eux. Loïc, c'est quelqu'un de gentil, il va jamais se retourner contre Laurent ou Théoura ou contre Namadia. Moi, j'y crois pas. Donc, clairement, ils ont aucun intérêt à éliminer Loïc, encore moins d'intérêt à éliminer Alexandra parce qu'ils peuvent la récupérer. Donc, franchement, la manœuvre, la marge dans laquelle était Jade, mais c'est vraiment du jamais vu. Pour moi, elle n'avait aucune chance de réussir ce conseil, même si elle fait justement quelque chose qui, pour moi, est très bon sur ce conseil-là. Elle se retrouve dans la merde parce que la configuration, bah, elle n'est pas à son avantage, c'est tout. Et c'est là aussi qu'on revient sur l'aspect chance de Koh-Lanta, parce que peut-être que dans une autre équipe, Jade aurait été plus à l'aise. Et voilà.
Et d'ailleurs, ouais, c'est qu'elle a tout tenté. Et d'ailleurs, c'est Hikaru qui dit que en fait, Jade, c'est les deux premiers votes qu'elle se prend en trois Koh-Lanta. Elle n'avait pas du tout reçu un seul vote lors de ses deux premiers.
Elle n'a pas pris un le premier épisode.
Ah, je sais plus du tout. Je sais plus.
Ouais, il
Non,
me semble.
elle s'en prend pas un parce que Cindy voulait voter Jade de base, mais elle a changé vu le discours de Karima.
D'accord, oui, je viens de vérifier. Non, elle s'en prend pas, j'avais cru.
J'ai cru. Donc, et puis du coup, il y a eu forcément un clash entre Alix et puis Jade. Alors, putain, c'est pareil, moi. Alix, enfin, tu sens qu'elle a pas grande confiance en elle. Et par contre, dès qu'elle est attaquée frontalement, elle répond tout de suite. Et je sais pas, Alix, du coup, elle peut être touchante. Mais moi, c'est pas une candidate que, en tant que candidate, je l'apprécie pas beaucoup. Justement à cause de ça, parce que elle va faire des choix parfois pas terribles. Et là, je pense que ce dont parlait Emma tout à l'heure, le truc de protection, sachant que déjà, on voyait lors des 4 terres qu'elle avait pas grande confiance en elle, c'était sûr qu'elle allait tomber dans le truc protection des hommes. Et là, du coup, l'avoir un petit peu comme ça, c'est. Ouais, c'est. Je pense que si elle était. Si elle a une Alix qui prend confiance en elle, ça pourrait être une joueuse redoutable parce qu'elle n'est pas idiote du tout. Mais ouais, là, j'ai l'impression que c'est pas forcément un bon choix, quoi.
Après, Alix, le truc, c'est qu'elle est un peu emportée dans la furie du conseil par Alexandra. C'est-à-dire que quand Alexandra balance tout, Alix assiste à la scène. Donc, elle n'a pas le choix, elle est obligée de changer de camp parce qu'il ne faut pas rester dans un bateau qui coule. Et voilà. Après, je pense que ce n'est pas non plus la meilleure idée de voter contre Jade. Genre, sérieux, tu t'as pas à te mettre à dos quelqu'un comme Jade qui est prêt à mettre du chaos total parce qu'elle est en minorité. Pour moi, Alix aurait dû voter contre Clémentine et ça aurait été un mec de mettre le nom de Jade parce que justement, je trouve qu'elle fait le sale boulot des mecs, mais ça, c'est totalement débile. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle fait le sale boulot des mecs en mettant Jade, quoi? C'est au mec de protéger Laurent, c'est pas à elle de protéger Laurent, en tout cas pour moi.
Bah,
Donc, je trouve ça
ouais.
assez
Et
bizarre.
surtout, pourquoi elle l'annonce? Enfin, pourquoi elle l'annonce après le conseil? J'ai fait ça pour protéger Laurent en cas de collier. C'est se tirer une balle dans le pied.
Bah, c'est la mentalité Koh-Lanta, ça se passe toujours. On l'a vu dans chaque saison, les candidats ne peuvent pas s'empêcher de justement révéler leur vote. Parce qu'à ce côté, de toute façon, ça va se savoir. Donc,
Là, ça a été bien bien poussé par Denis, encore une fois. Hein. Enfin, c'est
bah,
souvent le cas,
comme d'habitude.
mais c'est très agaçant, ça aussi. Enfin, si on veut préserver un minimum de suspense, mais même pour les joueurs, honnêtement, d'aller chercher un peu les infos sur qui a voté qui et pourquoi, etc. Est-ce que c'est pas plus intéressant que de dire oui, j'ai voté contre toi au conseil dans l'émotion du machin? Alors oui, ça fait une scène de bagarre, super. Mais sur le long terme, on y perd tellement. Il y a tellement de choses qui pourraient se jouer justement sur ces votes, voire mentir sur son vote. C'est des choses qu'on ne voit jamais et qui pourraient apporter tellement au jeu et à la stratégie, et c'est dommage parce qu'on est toujours dans le il faut être honnête et transparent, oui j'ai voté ça et j'assume, enfin voilà, on s'en fout, on te demande pas d'assumer, on te demande d'être malin, d'aller jusqu'au bout, et on est privé de ces scènes-là à cause de Denis et de la prod qui là aussi, on est dans l'individualisme. Il faut être OK, il faut être. Enfin, voilà, c'est, je m'égare un peu, mais ça me saoule à chaque fois qu'on demande aux joueurs de justifier, y compris pendant le conseil, alors que ça pourrait amener tellement de choses bien plus intéressantes de jouer là-dessus aussi. Je comprends pas comment on peut se priver de cet intérêt-là du jeu.
Les valeurs. Oui.
Bah ouais, mais c'est bon,
je suis comme toi. C'est un truc qui me dépasse. Enfin.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit les valeurs, ils citent jamais lesquelles. Parce que les valeurs, c'est très vague, ça désigne pas grand-chose en fait. Mais du coup, c'est les valeurs, quelles valeurs ?
C'est comme le mérite.
Voilà, le mérite, ouais. Encore que le mérite, si tu veux, on sait de quel concept ça parle. On sait que c'est en gros, c'est que les plus forts doivent aller plus loin, avec tous les problèmes que ça génère. Mais les valeurs, en tout, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est les valeurs, je sais pas, par exemple, la sournoiserie peut être une valeur. J'aimerais bien que quelqu'un un jour un conseil dise à quelqu'un, tu parles des valeurs, mais vas-y, lesquelles ? Dis-les. Et là, à mon avis, je pense que ça va bégayer.
Les valeurs actuelles.
Ouf. Bon, allez, fin de podcast.
Oh putain.
Koh-Lanta de droite.
Bah, Koh-Lanta, quoi.
Oui, Koh-Lanta.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, ouais. D'ailleurs, et Emma aussi, est-ce que tu veux, parce que là, tu dis des choses qui sont très intéressantes un peu sur le chat Le Feu de Camp, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous voulez écouter et nos podcasts en direct et interagir avec nous pendant les épisodes. Ouais, Emma, est-ce que tu dis des trucs pas mal sur Alix. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Ouais, bah, je disais que justement, Alix, on la voit que. Comme pour Alexandra, dès qu'elle obtient en fait un peu la protection, l'attention de Namadia, Laurent, etc., tout de suite, elle prend vachement la confiance, elle révèle tout, la stratégie de Kumba, la stratégie des filles, et elle se sent un peu grisée, en fait, je pense, cette nouvelle confiance qu'elle a acquis des hommes. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçue. Et on parlait aussi du fait que, ben, Alix, comme Karima, c'est des filles qui jouent avec les valeurs masculines et qui se les approprient pour se faire accepter dans la société dans laquelle on vit. Et en fait, elles essaient de les prendre pour elles et de jouer avec ces codes. Et on voit qu'en tout cas, dans ce Koh-Lanta-là, c'est un peu les seules femmes qui arrivent à se faire respecter. C'est les femmes qui vont jouer avec le mérite, qui vont prôner aussi les valeurs de mérite, etc. C'est comme quand Candice, elle pêche au harpon...
Karima.
Ouais, c'est clair. Mais c'est comme quand Candice elle pêche au harpon, que un Sam va dire oui, c'est vraiment une aventurière, machin et tout. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est tout ce truc de. Par contre, si une femme commence à dépasser un peu les hommes, là, oula, non, attends, c'est pas le mérite, voilà, elle respecte pas, machin. Enfin, c'est tout ce qui va arranger les mecs dans leur stratégie entre eux. Voilà, enfin, on va dire, on va taper sur l'épaule des femmes en mode, oh, c'est bien les filles, c'est super, vous pêchez 2-3 poissons et vous faites des records féminins, super, bravo les filles. Mais jusqu'à ce que ça remette pas forcément en question. Enfin, l'hégémonie des hommes, quoi. Donc, voilà.
Bah, oui, vas-y, excuse-moi.
Je voulais juste dire un mot. On va croire que je m'acharne, mais est-ce que t'es là au moment du conseil ? Parce que, alors, c'était ahurissant. Le mec, on l'a pas vu une seule seconde. Il est dans aucune discussion, dans aucun... Enfin, là aussi, le montage est quand même un peu particulier. Tu vas pas me dire que c'est compliqué de mettre un plan où il se met d'accord avec... on imagine qu'il est d'accord avec Laurent et Namadia, évidemment, mais ne pas le voir comme ça du tout, je trouvais ça très, très surprenant. Mais bon.
Non, il était un peu sa vie.
Oui, voilà,
il était, il était à la montagne chez ses parents.
C'est ça, il est allé se faire un petit gigot flageolé comme ça.
Exactement.
Il était invité par la famille, c'est longtemps que je n'avais pas vu. Donc, Mais ouais, non, c'est vrai que Théoura était assez absent. Est-ce que vous avez d'autres choses un petit peu à rajouter sur cet épisode qu'on n'aurait pas traité ou une observation qui vous serait venue dernièrement ?
Moi, justement, c'est en parlant des valeurs. Ce que je veux souligner, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un parle des valeurs, c'est avec un air tellement condescendant par rapport au reste des candidats, comme quoi moi je joue avec des valeurs, le reste ne joue pas avec des valeurs, donc je suis un candidat qui est supérieur au reste des candidats. Alors que merde, les autres font que jouer, ils le font dans les règles du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'empêche de jouer, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une alliance, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une alliance avec des meufs ou des mecs ou des... ou avec des colliers, ou avec je sais pas quoi, ou avec un partenariat, bref, je m'égare, mais il n'y a rien qui empêche un candidat de jouer comme bon le semble, tant que ça reste dans les règles du jeu. Et justement, il y a un côté valeur, il y a un côté vraiment très condescendant, très arrogant de ce côté-là, qui, perso, me saoule. C'est-à-dire qu'un candidat n'a pas le droit de jouer comme il a envie de le faire. Il n'a pas le droit de jouer sur ses forces, si ses forces, c'est la stratégie, si sa force, c'est le social, si sa force, c'est de réfléchir. Non, il est obligé d'être fort, d'être respectable, d'être valeureux, d'être loyal, alors qu'il y a 20 000 façons de jouer le jeu. Et Koh-Lanta gagnerait tellement à mettre en avant chacune de ses manières de jouer. Mais non, on préfère rester dans ce cadre assez valeureux, méritant, qui plaît tellement à tout le monde, alors que justement, je pense que beaucoup de gens apprécieraient si le jeu était un peu plus complexe.
C'est sûr. Eh oui. Bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. C'est les Jeux Olympiques. C'est vraiment, pour moi, la meilleure formule, c'est devenu ça. C'est-à-dire qu'il, comme tu dis, il faut être lisse, il faut être machin. Et quand en plus on ne l'est pas, on a le droit de se prendre des petits reproches à la Maxime qui trouve les autres tellement nuls par rapport à lui et sa façon de penser, d'être, de réfléchir, qui est tellement positive, etc. Enfin, voilà, c'est ça depuis plusieurs saisons maintenant, et j'ai peur que ça ne change pas tout de suite, et on ne peut que le déplorer. Je suis 100% d'accord avec toi.
Ah, mais voilà, mais Koh-Lanta, c'est la vraie vie, voyons.
Oui, enfin, dans la vraie vie, personne n'est aussi lisse.
Je sais bien. Non, mais c'était de l'ironie, hein, complet. Hein.
La balle perdue.
À part Thomas Pesquet, oui.
Et Loïc.
Oui. du coup, est-ce que, pareil, vous avez quelque chose à rajouter? Non? Ok. Bah, écoutez.
Non. On attend de voir la suite. Je pense qu'on a tous envie que ça change un peu, qu'on passe enfin à autre chose que ces guerres des sexes de merde, et puis qu'on voit du jeu et des mouvements, des strates, des réflexions, des prises de risques, tout ce qui nous manque quand même cruellement depuis le début, alors qu'on a un casting sur le papier incroyable, mais qu'on se fait copieusement chier, et qu'en plus c'est malaise depuis le premier épisode. Ça rend fou, parce qu'il y a tout pour faire une saison incroyable, et pour l'instant c'est juste gênant au mieux. Ou alors on se branle sur les performances sportives comme le font certains, et c'est super. Mais merde, quoi. Enfin, on peut passer la seconde et peut-être que ça va s'arranger d'ici la fin, mais pour l'instant, ça donne juste une impression de gâchis terrible, vraiment terrible.
Bah, moi, perso, j'attends la semaine prochaine pour voir qui va battre le record sur 100 mètres de Usain Bolt entre Sam et Théoura, quoi.
D'ailleurs, le record du 100 mètres, il a été battu il n'y a pas longtemps. Un coureur qui a couru 102 mètres.
Le style, le...
Bah écoute, Denis Brognard va changer les règles pour permettre
il finira à cloche de
battre voilà, encore, ouais. Donc t'inquiète pas.
Bah,
voilà. Ah, c'est dur d'enchaîner.
Ouais, voilà, bah, le silence après une veine de SLZ, c'est encore du SLZ.
Putain.
Oh, le fou.
Voilà, tu pourras la couper, celle-là, s'il te plaît.
Non, il y a Laurent Mestré qui a fait des blagues à la con qui étaient vite fait drôles. Ça, c'était marrant, c'est genre...
Oui, si, quand il a supporté Kumba, en disant Makumba.
Ouais, Makumba, il danse tous les soirs, oui. Non, voilà, ça, c'est marrant. Ça fait...
Ouais, c'est qu'il veut absolument refaire le décor penché d'Arthur.
Ça. Oui. Bah, écoutez, mais merci à tous. Merci Emma, d'abord, d'être intervenue.
Pas de souci. Merci d'avoir écouté.
Merci à Freeze, merci à Arnaud, merci à Jade.
Eh ben, merci à toi.
Merci,
c'était un plaisir.
Et on peut rappeler, comme tu as parlé du Discord, que vous pourrez retrouver le lien sur le profil Facebook.
Oh, il a fait une manuelle Valls. Oh,
une phrase à dire. Hein. Tu vois, la seule phrase que j'ai pas écrite. Oh, putain. Je recommence. Merci à toi.
Vas-y, arrête, frérot, c'est pas grave.
Merci à toi, Damien. On peut retrouver le Discord sur le profil Twitter, à des podcasts. Et puis on se retrouve bientôt.
Voilà, bah oui, bah rappelez donc le 17, octobre, à la Gaîté Lyrique, lors du Paris Podcast Festival, notre live, donc avec Arnaud, avec Freeze, avec Emma, bah on avait la team au complet ce soir. C'était une répète pour nous.
Eh bah putain,
il n'y a que Jade qui sera pas là. Ou alors ça.
Dommage.
À moins que tu veuilles descendre de Lille pour venir nous voir, mais.
Bon, pour vous voir, non, j'ai mieux à faire.
Ah, ça, c'est sympa.
Super.
Bah, bonne soirée à toutes et à tous.
Donc, on rappelle qu'il y aura, bah, il y aura Shanis avec nous et du coup, il y aura. Alors, on sera au foyer historique de la Gaîté Lyrique et on recevra Shanis pour un épisode de 3 quarts d'heure. Donc, si vous voulez venir nous voir et puis boire un coup avec nous après, bah, du coup, vous êtes les bienvenus. L'entrée est gratuite. Donc voilà, ce sera selon les places qu'il y aura, mais on se fera un plaisir de vous accueillir nombreux pour venir nous entendre raconter des conneries comme on le fait tous les mardis soirs. C'était Damien, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.